Gloire à Dieu. Nous sommes désolés pour nos bien-aimés qui devront quitter vers midi pour aller dans l'église de Paris à la cellule des temples. Du coup, ils ne pourront pas assister à autant d'établissements de diacres que nous aurons tout à l'heure, dont le pasteur Jean-Luc. Et l'équipe de Paris est obligée de partir vers midi. Et on avait le choix entre la parole de Dieu ou alors faire l'établissement des diacres. Mais j'estime que le plus important, c'est la parole de Dieu. Je préférais encore qu'ils écoutent, même ne serait-ce que 15 minutes. C'est beaucoup plus logique, vu qu'on a déjà fait deux parties, ils prennent la troisième partie, ben, dans l'avenir, il y aura encore beaucoup d'autres moments d'établissement de responsables. Voilà, ça fait partie de la mission. Dans la mission, ce n'est pas l'esthétique qui compte. L'esthétique aurait voulu qu'il soit avec nous jusqu'au bout, mais le travail exige qu'il puisse quitter vers midi. Voilà, c'est ça le plus important, c'est que le travail soit fait. Donc nous avons intitulé notre séminaire « L'enjeu missionnaire, le projet missionnaire ». Et nous avions dit qu'il y avait deux enjeux très importants, deux enjeux principaux concernant l'humanité, c'était la rédemption et l'annonce de la rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est le fait que Dieu nous sauve de nos péchés par le don de son propre Fils. C'est ça, la rédemption. Donc, son Fils est donné en rachat pour nos péchés. Et c'est essentiel parce que depuis Genèse chapitre 3, l'homme a péché et du coup, il a été séparé de Dieu. Il a été livré à ses propres pulsions, à ses propres désirs. Mais aussi, il a été condamné. Donc, l'homme, le temps qu'il souffre par ses propres désirs et ses propres pulsions, il attendait en plus de cela le feu éternel. C'est quelque chose de très grave. Déjà que la terre n'est pas facile, si en plus de ça, il faut après la mort aller dans le feu éternel, c'était très difficile. C'est pourquoi, dès Genèse 3, comme on a lu le premier jour, Dieu projette un moyen de sauver l'homme. Il projette de sauver l'homme par la postérité de la femme, par un fils qui naîtra d'une femme, mais qui sera parfait, un homme parfait. Quand on dit « il naîtra d'une femme », c'est sous-entendu « l'homme masculin n'aura pas à intervenir ». Et cet homme-là qui allait venir régler le problème du péché et du mal devait être lui-même parfait. Mais Dieu a préparé ce salut. Il n'a pas amené d'un coup, il a préparé cette rédemption. Et en se constituant d'abord un peuple à travers Abraham et ses descendants. Donc c'était le premier jour. Le premier jour a servi à montrer que le plan du salut pour toute l'humanité a été conçu depuis Genèse chapitre 3. Donc dès que l'homme a péché, Dieu a conçu le plan de salut pour toute l'humanité parce que dans Genèse chapitre 3, il n'est pas question d'une nation. Il n'est pas question d'un peuple, il est question tout simplement du péché de l'homme. Et donc depuis Genèse chapitre 3, Dieu décide qu'il viendra sauver par le descendant de la femme l'humanité. Et ensuite, il appelle Abraham. Il dit qu'à travers Abraham, toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies. Voilà. Donc ça, c'est le message claire et nette de Dieu. Dieu se manifeste de plusieurs manières. Donc, ce n'est pas l'objet de notre séminaire. Notre séminaire, c'est montrer comment Dieu, d'une manière claire et nette, s'est manifesté. Premièrement, c'est à travers Abraham, en promettant que c'est à travers Abraham que toutes les nations seront sauvées, connaîtront Dieu, seront bénies. Et nous avions montré le premier jour que Abraham et ses descendants ont eu plusieurs contacts avec les autres nations. Et ces contacts ont servi à ce que ces nations voient que le Dieu véritable, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Dieu est en train de préparer son salut pour toute l'humanité. Il commence donc par s'attacher à un peuple, le peuple d'Abraham, la nation d'Israël. Il sanctifie ce peuple-là par des lois et par des sacrifices d'animaux, afin que ce peuple-là soit pur et saint pour pouvoir être une lumière pour les autres nations. Et ça s'est passé pendant un certain moment. Et finalement, ce peuple n'a pas été à la hauteur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris dans ce peuple-là, il a sorti de ce peuple-là un fils, le Fils de Dieu, qui lui allait réussir à apporter pas seulement la lumière, mais la rédemption. Pas seulement montrer aux gens qui est le véritable Dieu, mais opérer le sacrifice qui allait faire que nos péchés soient pardonnés. Voilà le processus. Et donc le deuxième jour, nous avons insisté sur la rédemption opérée par Jésus à la croix. En s'offrant lui-même à la croix, nous avions montré combien c'était un acte missionnaire déjà, parce qu'il a quitté le ciel pour venir sur la terre. Et on avait dit hier que personne ne peut se plaindre de quoi que ce soit ici sur terre par rapport à la mission. Parce que si elle doit voir ce que Jésus a fait. Parce que Jésus a quitté le ciel où il était le chef là-bas. Et là-bas, il n'y a pas de canicule, il n'y a pas de souffrance, il n'y a aucune difficulté. Il a quitté le ciel pour venir en missionnaire sur terre. C'est ce que nous avons vu hier. Missionnaire, c'est-à-dire dire aux gens comment Dieu est. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ce qu'Israël n'avait pas pu faire, c'est-à-dire apporter la rédemption, Jésus-Christ le fait. Il donne lui-même sa vie afin que nous soyons pardonnés de nos péchés et nous recevions la vie nouvelle par sa résurrection à lui. Jésus a opéré ça. C'est ce qui fait de lui le grand sauveur. Non seulement c'est un envoyé de Dieu, c'est un missionnaire de Dieu, mais lui-même il a payé par son sacrifice. Il est doublement missionnaire. Par la prédication, par la présentation de Dieu, mais aussi par le don de soi-même comme étant un sacrifice. C'est notre exemple parfait. C'est ainsi que on va voir dans certains pays du monde des gens qui sont partis en mission. Certains ont donné physiquement aussi leur vie, comme Albert Stanley Dale qui a donné sa vie. Il a été tué en mission. Beaucoup d'autres encore ont été tués en mission. Je me souviens d'un jeune homme dont le frère avait été mangé par les indigènes. Il est parti en mission dans un endroit où ces gens-là mangent les humains. Et le premier convoi missionnaire a été tué et mangé. Mais son frère, quelques mois plus tard, il s'est engagé à y aller aussi. Alors que il savait bien que là-bas, on avait mangé son propre frère. C'est pour nous dire que ce que le frère Ézéchiel a dit tout à l'heure, dans 2 Corinthiens 5, 14, l'amour du Christ nous presse. Voilà, quand on est missionnaire, c'est parce que l'amour du Christ nous presse, ça nous pousse à nous donner pour les autres. Et ce frère-là est parti encore, est parti au même endroit que son frère qui avait été mangé. C'est l'amour de Dieu, c'est la mission. Et Jésus-Christ a accompli la rédemption. De sorte que aujourd'hui, on a clôturé hier avec Luc 24, maintenant que Jésus-Christ a accompli la rédemption, c'est à ses disciples d'aller dire à tous les humains de toute la terre. Maintenant, Dieu n'utilise plus Israël comme l'évangéliste des nations, il utilise maintenant l'Église comme évangéliste de chaque personne. Donc ce n'est plus... Dieu ne voit plus les choses exclusivement en nation, mais il voit les choses en nation, c'est vrai, mais moins. Il voit beaucoup plus les choses selon chaque individu. L'Église reçoit donc le mandat d'aller sauver chaque individu. Voilà pourquoi nous existons. Nous existons pour ces deux enjeux-là, la rédemption et la mission. Aller annoncer la rédemption. Mais puisque la rédemption, puisque l'acte de Jésus a été parfait, l'acte de Jésus a été complet, on ne peut rien y rajouter, il ne nous reste plus que la mission. Aller dire à tous les hommes, vous n'êtes plus obligé de crouler sous la domination de Satan, la domination du péché. Jésus-Christ a payé pour vous à la croix. C'est ça qu'il nous reste à faire. Et c'est ce que Jésus a déclaré après sa résurrection à ses apôtres. Et on va lire ce texte qui va en même temps nous aider à résumer les deux premiers jours. Luc 24, 36 à 49. Luc 24, 36 à 49. Il est écrit ceci. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. » Voilà le résumé de notre séminaire. Ça se trouve dans ce passage-là. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'acte de sauver l'humanité se trouve déjà écrit dans l'Ancien Testament. C'était déjà écrit. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça a été le premier jour. Donc le premier jour, nous avons montré dans la loi de Moïse, dans Genèse, dans Exode. On a pris aussi un passage des psaumes. On a pris aussi des passages, le fameux psaume 67, on l'a pris. On a pris aussi quelques passages des prophètes, notamment Jérémie chapitre 1 et Ésaïe chapitre 42, qui parlent clairement du Seigneur Jésus. Et on n'a même pas cité tout, parce qu'il y a aussi Ésaïe 53, il y a plein d'autres passages. Mais on a pris tout ça, c'est ce que dont Jésus est en train de parler là, quand il dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. On a pris tous ces passages qui montraient l'idée de sauver toutes les nations par Dieu. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses. Ils étaient témoins du sacrifice de Jésus. Il leur explique maintenant, mais tout ça est écrit avant. Dieu a préparé les choses d'avant. Moi, quand je pense que finalement mon salut est une préparation des milliers d'années de Dieu, je prends au sérieux ma vie. Je me dis, mais Dieu a dû utiliser tout un peuple, le peuple d'Israël, et produire un fils dedans pour me sauver moi. C'est grand. Donc chacun de nous a une grande importance aux yeux de Dieu. Et Jésus dit, tout ça est écrit que je souffrirai. Ce que vous venez de vivre n'est pas étonnant. Je devais souffrir. Mais le troisième jour, je devais aussi ressusciter. Il est ressuscité le troisième jour, nous montrant par là que désormais tout est possible. Les conséquences du péché, la mort et le péché lui-même sont vaincus. Jésus a vécu sans péché et en prenant nos péchés à la croix, il en est mort, il est mort en sanction, mais comme lui-même n'avait pas de péché, il ne pouvait pas être prisonnier de la mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort pour nous. De sorte que quiconque croit en Jésus peut vivre le pardon des péchés, le salut et la résurrection. Maintenant que tout ça est bouclé, on passe à quoi? On passe à l'annonce. Il faut maintenant dire à tous les humains, c'est réglé, c'est réglé. Jésus-Christ a tout accompli. Dans Jean 19, 30, il dit, tout est accompli. Il faut maintenant qu'on le dise à tout le monde. Tout est accompli. Mais qui va le faire? Ce sont les disciples du Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous interpeller là-dessus. Il veut produire des disciples, des gens qui vont porter ce fardeau missionnaire à 100%. Des gens qui ont compris tout ce qu'on a expliqué dès le départ. C'est que dès le départ, tout ce qui intéresse Dieu, c'est de sauver les humains. Dès que les humains pêchent, il établit un plan pour les sauver. Donc, tout ce que nous vivons sur terre n'a d'intérêt que si ça contribue au plan de Dieu de sauver tout le monde. Il cherche des gens qui vont comprendre cela. Dès Genèse 3, lui s'emploie à vouloir sauver les humains. Tout ce qu'il a construit avec Israël n'avait pour objectif que venir sauver tous les humains, toutes les nations. Alors, il cherche des disciples, des gens qui vont être touchés par l'œuvre de Jésus à la croix, mais des gens aussi qui souffrent de voir que les humains sont perdus et se perdent davantage. Et nous allons lire un texte qui parle des disciples de Jésus dans Luc 9, 57 à 62. Luc 9, 57 à 62. Aujourd'hui, pour clôturer, nous avions dit, nous allons parler, nous avons intitulé ça, le Saint-Esprit, les disciples et le message. Nous venons de commencer par le message. Hein, le message, c'est aller annoncer à tous les humains qu'ils doivent se repentir de leurs péchés. C'est ça le message qu'on doit annoncer, qu'ils doivent se repentir de leurs péchés. Et cela est possible parce que Christ est mort à la croix pour cela. Dans l'Ancien Testament, on disait aux gens de se repentir, mais ils n'étaient pas vraiment sauvés après. Mais aujourd'hui, quand tu te repens, tu reçois le salut après. Donc maintenant, le message, ce n'est pas d'aller dire aux gens qui peuvent devenir riches en Christ, ils peuvent acheter des immeubles en Christ. Le message, ce n'est pas de bâtir la plus belle salle de culte. Le message, ce n'est pas la vision d'un homme où il y a des gens qui disent « c'est ma vision, c'est mon église ». Ce n'est pas ça le message. Le message, c'est appeler tous les peuples à la repentance, tous les humains à la repentance, dire aux humains ce que Jésus lui-même dit dans Jean 8, « si vous ne vous convertissez pas pour croire en Jésus, vous mourrez dans vos péchés. L'homme a le péché en lui qui le détruit, qui l'amène à la mort. » Mais le problème, c'est qu'il y a une plus grave mort, ça s'appelle la seconde mort, qui vient après la première mort physique. C'est la mort qui vient lorsque on n'a pas été sauvé par Jésus. On va vivre éternellement dans le feu éternel. On doit dire aux humains, tout cela est dû au péché, repentez-vous et croyez en l'évangile. Jésus dit, il fallait que le Fils de l'homme, donc dans Luc 24, il fallait qu'il souffre, qu'il meure pour les péchés des humains, et qu'il ressuscite. Et après cela, la repentance va être prêchée à toutes les nations. La prédication, c'est la repentance par rapport au péché. La repentance par rapport à l'égoïsme. La repentance par rapport à l'orgueil. La repentance par rapport à l'idolâtrie. C'est ça la prédication. Et la repentance, grâce au fait que à la croix, Jésus a déjà payé. Et comme il est ressuscité, on peut non seulement recevoir le pardon par la repentance, on peut recevoir une nouvelle vie. C'est ça la prédication. Bien-aimés, ne vous laissez pas distraire par autre chose. Vous pouvez faire des débats de 3 heures, 4 heures, même 15 heures avec des gens d'autres religions ou bien avec des athées. Vous allez perdre votre temps. Concentrez-vous sur le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas chercher à démontrer aux gens que Jésus est Dieu. Démontrer aux gens que Jésus a fait tel miracle ou tel autre miracle. Non. Le message, c'est dire aux gens, vous avez un problème, vous avez le péché en vous. La preuve, c'est que vous mourrez. Quelque chose qui est parfait ne meurt pas. Vous avez le mal. Si Dieu ne fait pas une opération chirurgicale pour vous enlever ce mal, par le sang de Jésus, vous mourrez avec ça et vous irez dans le feu éternel. Et c'est triste. C'est une souffrance éternelle. C'est ça le message. Et désormais, le pardon est possible par l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Et bien aimé, dans tout cela se trouvent les réponses aux autres questions. Parce que hier, on a eu des débats avec un jeune homme qui est musulman. On a eu par personne interposée, il dit, mais comment vous pouvez dire que Jésus est Dieu? Oui, Jésus est Dieu. Et c'est ça qui explique notre message, parce que il ne pouvait se trouver que Dieu lui-même pour venir en homme parfait pour ne commettre aucun péché. Parce que tous les autres hommes étaient pollués par le péché d'Adam. Ouais, ça paraît comme ça. Jésus meurt à la croix. C'est ça le message. Mais oui, mais dans ce message-là se trouve tout. Parce qu'il est mort à la croix en tant qu'un agneau parfait, en tant qu'homme parfait. Mais un humain ne peut pas être parfait. Donc, c'est pourquoi Dieu lui-même est venu. Il est descendu en homme. L'homme parfait qui allait être sacrifié pour le péché de tous les hommes. On lui a répondu ça. Il dit, mais pourquoi Dieu viendrait se rabaisser comme ça en homme? On lui a donné la réponse. Ah, c'est l'amour. Il aime les humains. On lui a dit, toi, que le jour où tu auras un bébé, tu es prêt à faire les métiers les plus bas pour le nourrir. Tu peux faire éboueur, tu peux faire les métiers, ramasser des papiers, ramasser des saletés, tant que tu sais que ça va te donner l'argent pour acheter du lait pour ton bébé. C'est ça l'amour. L'amour peut expliquer que Dieu vienne en homme. Voyez, bien aimé, maintenant, si tu passes ton temps à vouloir prouver que Jésus est Dieu, mais d'une manière technique, je ne sais pas comment, tu vas te perdre. Restons sur le message. Le message, c'est que Jésus est mort à la croix à cause de nos péchés. Le vrai problème de l'homme, c'est la repentance. Et la personne avec qui tu discutes, il faut lui dire, mon ami, tu passes ton temps à analyser Dieu et analyser les choses. Préoccupe-toi de ton salut à toi. Comment tu es sauvé? Il faut qu'on ressente toujours le message sur ça. C'est le salut de chacun. C'est ça. Tu peux faire toutes les philosophies que tu veux. Mais après, ton cas, il est résolu comment? Mais quand tu reçois un avis comme quoi tu as été flashé sur la route, tu peux faire toutes tes philosophies comme tu veux, la vie est toujours là. Et si tu ne payes pas, après un temps c'est majoré. Voilà. Donc tu dois t'intéresser à comment régler avec l'État. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu dois vite faire en sorte que toi et l'État, vous n'ayez plus de conflit sur ce problème-là. Donc le vrai problème, bien-aimé, c'est ça le message, c'est chacun, chaque humain, quel est ton sort éternel? La Bible nous dit, il faut que tu te repentes de tes péchés et que tu acceptes ce que Jésus a fait pour toi à la croix. C'est ça qui te rend innocent. C'est ça le plus important. Et dans ça se trouvent toutes les autres explications. Que Jésus soit Dieu, ça se trouve dans l'œuvre de la croix. Seul Dieu pouvait faire un tel sacrifice parce que lui, il est amour et parfait. Aucun homme ne peut faire ça pour les autres. Seul Dieu pouvait venir un homme et faire cela. Quand on dit que Jésus est Dieu, ce n'est pas un homme qui est Dieu, qui devient Dieu. C'est Dieu qui devient un homme. C'est ça. Deuxièmement, c'est les disciples. Il faut que ce message soit porté par des disciples. Des gens qui eux-mêmes ont intégré ce message, qui est... des gens qui ont été transformés par ce message. Maintenant, pour faire une sorte de tri, parce qu'il y a tout le monde qui dit qu'il aime Jésus. Beaucoup disent ça. Beaucoup disent qu'ils sont d'accord avec l'évangile, sont d'accord avec Dieu. Mais Dieu connaît ceux qui vraiment sont devenus des disciples. Et on va lire un texte, parce qu'il y a plein de textes sur les disciples, mais on va lire un texte qui fixe les disciples. Voilà, parce que c'est les disciples qui vont aller dire à tous les humains, voilà, c'est possible d'être sauvé comme nous on a été sauvés. C'est possible d'être transformé comme nous on a été transformés. Tout cela à cause de l'acte, l'œuvre de la rédemption en Jésus-Christ. Nous lisons Luc 9, 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » D'accord, parole positive, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va mettre une épreuve pour savoir si vraiment tu le veux réellement, si tu es un vrai disciple. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Jésus prévient. Si tu es vraiment son disciple, tu devras accepter ses conditions à lui. Je ne peux pas dire tu devras accepter les mauvaises conditions. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de nous mettre dans les mauvaises conditions, bien-aimés. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus, de penser que Dieu veut nous faire souffrir, nous mettre dans des mauvaises conditions. Non. Il veut qu'on soit dans ses conditions à lui. Ça peut être de bonnes conditions, comme des mauvaises. Mais c'est le plus important, ce sont ses conditions à lui. Moi, je connais des chrétiens qui fuient parfois, qui refusent les bonnes conditions. Attention, il n'y a pas que les chrétiens il n'y a pas seulement que des chrétiens qui fuient les mauvaises conditions. Il y a l'inverse, des religieux, des gens qui cherchent à se sauver par eux-mêmes.
lorsqu'ils sont dans de bonnes conditions, ils disent, ah, mais non, non, ça, c'est pas biblique. Mais non, mais c'est écrit où? L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Le plus important, c'est que je sois dans les conditions du Seigneur. Le Seigneur lui dit, je n'ai pas d'endroit où dormir. Donc, si tu veux me suivre, ça sera à mes conditions, pas à tes conditions. C'est ça les vrais disciples. Ce sont des gens qui fonctionnent selon les conditions du Seigneur. Vous savez, un exemple bien-aimé, si on devait suivre les réflexions de certaines personnes, ou bien la logique scientifique, on n'aurait même pas fait ce séminaire. Parce qu'on nous a dit qu'il y a des cas, ceci, de cas, cela, Omicron, voilà. Mais la question c'est les conditions du Seigneur ou bien les conditions de l'homme. Le vrai disciple doit suivre les conditions du Seigneur. Comme le frère a fait le témoignage, il n'a même pas, quand il dit qu'il a démissionné, mais vous savez, il n'a pas que démissionné parce que il pensait que en quittant le travail, voilà, il a démissionné plus tôt, mais avant c'était pas ça, avant c'était il fallait négocier une rupture à l'amiable, comme ça il allait avoir son chômage ou bien quelque chose du genre RSA, un truc comme ça, mais son patron a refusé alors qu'au début il semblait être d'accord. Moi je lui ai dit, mais c'est aux conditions du Seigneur. C'est là qu'il s'est dit, mais bon, voilà, je démissionne et je n'aurai aucun revenu. Vous voyez, donc c'était, nous on avait négocié que ça sera, bon, rupture à l'amiable, comme ça tu auras un revenu au début, et puis, mais ça n'a pas marché comme ça. On a dû céder. Le vrai disciple, c'est celui qui cède aux conditions du Seigneur. Ce n'est pas celui qui se dit, ça va être comme ça, et puis bon, tout est bien fait, et moi j'y vais. Non. Jésus dit, mes conditions ne seront pas toujours vos conditions. Si tu veux me suivre, comprends cela, bien-aimé. Le Seigneur est en train de chercher ce genre de disciples. Des gens qui suivent ses conditions à lui. Matérielles, environnementales, mais les conditions du Seigneur Jésus. Verset 58, verset 59. Il dit à un autre, « Suis-moi !» Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Mais comme c'est dur, bien-aimé, c'est dur. Et pire encore, non seulement c'est dur, ce n'est pas raisonnable. Enterrer son père, ça va prendre peut-être un jour. Est-ce que, en quoi ça va fausser ma mission de toute la vie? Pourquoi exiger un tel sacrifice? C'est pour montrer l'importance du salut des hommes, bien-aimés. Jésus, à travers cet exemple, veut nous montrer l'importance du salut d'un seul homme aux yeux de Dieu. Quand il exige à son disciple, quand il lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, toi, suis-moi pour annoncer le royaume de Dieu, il veut nous dire qu'il y a beaucoup de choses sur terre dont on s'embarrasse, qui sont devenues comme obligatoires, mais qui n'en sont pas. Que tu ailles enterrer ton père, ça va changer quoi sur la suite concernant ton père? Oui, tu vas être le fils qui honore la mémoire de son père. Tu vas être considéré par la famille comme ayant fait un bon acte. Mais quelle est la valeur de tout ça? La considération des autres humains. Que toi tu enterres ton père, quand on compare tout ça au salut d'une personne, ça n'a pas de poids, bien-aimé. Le salut d'une personne a obligé le Fils de Dieu à venir à la croix. Une fois, on a parlé de ça. L'écart qu'il y a entre Jésus au ciel et Jésus à la croix est trop grave. Et cet écart-là, de quitter la croix, de quitter le ciel pour aller à la croix, en esclave, Philippiens 2 nous explique tout ça. Cet écart-là montre l'importance que Dieu accorde au salut d'une personne. Son Fils l'aurait fait même pour un homme. C'est Dieu qui nous réveille pour nous dire, le plus important, c'est annoncer le royaume de Dieu. C'est annoncer la rédemption en Jésus. C'est le plus important, bien-aimé. C'est le plus important. Parce que cette remarque, elle n'est pas raisonnable. Ah non, c'est pas grave. Laisse les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire, laisse les morts spirituels enterrer leurs morts physiques. Autrement dit, c'est quoi? C'est, il y aura toujours des gens pour coudre les vêtements. Il y aura toujours des gens pour faire des restaurants. Il y aura toujours des gens pour être docteur en pétrochimie. Il y aura toujours des gens pour être maître en art. Il y a même des maîtres fromagers. Il y aura toujours ça. Il y aura toujours ça. Mais toi qui es appelé à devenir grand polytechnicien, quand Jésus te dit, c'est le moment, tu dois être prêt à lâcher ça et aller annoncer le royaume. Car il y aura toujours des morts pour enterrer des morts. Il y en aura toujours. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais avec mon intelligence, j'étais promis à une grande carrière, ça allait faire ceci, ça allait peut-être aider à vous faire évoluer la science. Dieu te dit, il y aura toujours des scientifiques pour faire ça. Mais des disciples pour annoncer le royaume, ça c'est pas facile. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et quand Jésus peut obtenir un ouvrier, il tient à lui, il ne le lâche pas. Il te dit, il y aura toujours des morts, c'est-à-dire des gens qui donnent beaucoup d'importance à ces choses-là. Il y en aura qui vont s'occuper d'enterrer ton père. Déjà, il est mort, c'est de l'histoire passée. Toi, va annoncer le royaume. Bien-aimé, il y aura toujours des gens pour satisfaire au monde. Bref, c'est ça. Il y en aura toujours. Mais toi, au moment où Dieu te dit, c'est bon, tu lâches tout. Je me souviens d'une sœur à Madagascar qui reçoit l'annonce de l'équipe d'évangélisation à laquelle elle faisait partie. On lui dit, elle voit qu'il y a un temps d'évangélisation qui est programmé dans un pays musulman. C'est un voyage au fait, quoi, qui demandait à ce qu'il soit 2 semaines absent. Mais ça coïncidait, ces 2 semaines, avec sa période d'examen pour finir sa formation et avoir son diplôme. Et elle a dit, Seigneur, je fais quoi? Vous savez, le Seigneur ne répond pas dans ce genre de cas. Parce que beaucoup disent, mais les autres, Dieu leur parle, moi Dieu ne me parle pas. Il y a des moments où à nous tous, le Seigneur ne répond pas. Il a déjà parlé dans sa parole. Il te demande de prendre la décision. Tout est dans la parole. Laissez les morts enterrer leurs morts. Tout est dans la parole. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit, en se servant de la parole, va venir te voir. Et cette sœur a décidé d'aller plutôt en mission. Mais il faut s'arranger quand même, il faut qu'on puisse trouver une solution. Elle est partie voir les responsables de l'université pour expliquer qu'elle va être absente. Est-ce qu'on ne peut pas lui faire un examen à son retour? Refus catégorique. elle a décidé de faire les choses selon les conditions du Seigneur. Elle est partie en évangélisation. Dans leur travail, elle a gagné 4 âmes au Seigneur. Et quand elle est revenue, le directeur l'a fait venir dans son bureau. Il a posé la question, mais quelle est la chose qui a fait que tu puisses t'absenter au point de rater ton diplôme de fin d'études? Elle a expliqué que les âmes, elle va les retrouver au ciel. Le salut d'un homme a du prix aux yeux de Dieu. Et Jésus a fait ça pour elle. Elle se devait d'aller faire ça pour les autres. Vous savez, bien aimé, Jésus a quitté le ciel. Toi, tu vas peut-être louper un diplôme, tu vas louper 1000 euros, tu vas louper 1 million d'euros, mais lui, il a quitté le ciel. Ça, vous savez, il n'y a pas de comparaison, on a dit ça hier. Il n'y a pas de comparaison. Il y a sacrifice et sacrifice. Lui, il a quitté le ciel pour te sauver, toi. Mais toi, qu'est-ce qu'on te demande? Peu de choses en comparaison avec cela, à cela. Et finalement, le directeur lui dit, écoute, exceptionnellement, on va te faire l'examen. Et elle a eu la meilleure note de toute l'université. Vous voyez, Dieu veut qu'on obéisse à sa voix, qu'on doit être des disciples. Quand il dit « va annoncer le royaume », c'est cette voix-là que tu dois entendre. C'est cette voix-là que tu dois, à laquelle tu dois obéir. Faire toujours des bémols. Oui, mais il y a ma femme qui me bloque. Il y a mon mari qui me bloque. Il y a mes enfants. Il y a... Ça ne marche pas avec Dieu. Il te dira, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, annonce le royaume bien-aimé. Il n'y a rien qui peut se mettre en obstacle à l'œuvre de Dieu en dehors de nous-mêmes. Par nos refus, par nos polémiques personnelles avec Dieu. Mais les autres choses qu'on cite comme obstacles n'en sont pas. C'est notre désobéissance qui est l'obstacle. Un point, c'est tout. Dieu cherche les vrais disciples. Bien-aimés, au verset 60, 61, il est écrit, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Une fois de plus, vous allez me dire, mais c'est dur, ça n'a pas de sens. Pour dire au revoir, c'est un problème ça. Mais en réalité, ce n'est pas le problème d'au revoir, c'est le problème d'un conformisme, d'un dernier conformisme avant de servir Dieu. Là, ces exemples-là nous sont donnés pour nous secouer, nous réveiller. Mais en réalité, vous savez, il y a des gens qui font quoi? Avant de se marier, ça s'appelle quoi? Ils font des trucs dans le monde, la fête de... J'ai pas compris. Enterrement de... De vie de garçon, je sais pas. Donc, pour une dernière fois, ils vont être célibataires et faire n'importe quoi. Ben, c'est la même chose que les gens disent au Seigneur. Je vais te suivre, mais laisse-moi participer d'abord à une dernière fête, à un dernier truc en boîte de nuit. Après, je serai prêt. Je vais te suivre, mais je veux me marier d'abord. Le revoir qu'on voit ici, ce n'est pas un au revoir, c'est bien aimé. Ça ne prend pas beaucoup de temps de venir dire « allez, allez, ciao, ciao ». En réalité, c'est un retour à un conformisme humain. Tu dis au Seigneur « je me conforme au monde rapidement et je viens ». Jésus dit non, tu ne peux pas mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Et les gens se disent au Seigneur « attends que je gagne de l'argent cette année ». Quand j'aurai gagné, on a vu ça avec notre frère Mohamed au Liban. Il a dit au Seigneur, laisse-moi faire encore un temps, gagner de l'argent, et puis après, je pourrai te servir. Le Seigneur a dit, c'est maintenant. Il y en a même qui disent, mais on aura besoin d'une voiture, on aura besoin de ceci, on aura besoin de cela. Seigneur, laisse-moi gagner d'abord de l'argent, comme ça va aider pour la mission. Dieu te dira, je n'ai pas besoin de toi. Quand il a envoyé ses disciples, il les a envoyés sans argent. Et quand ils sont revenus, il leur a dit, vous avez manqué de quelque chose? Non. Donc beaucoup vont essayer de jouer à ce conformisme-là. Il y a un repas familial d'abord, ensuite j'irai. Ah, le Seigneur dit, on ne met pas la main à la charrue et on regarde en arrière. Il y a une réunion de famille là, ensuite, il te dira, le royaume de Dieu d'abord. Ce n'est pas moi, bien-aimé. Je suis en train de présenter ces choses pour produire de vrais disciples du Seigneur. Savoir ce qui nous attend. Mais qu'on doit faire avec joie parce que lui, il l'a fait avec joie. Lui, il a quitté le ciel pour venir nous sauver. Le grand missionnaire, il l'a fait avec joie. Il est écrit dans Hébreux 12, quand il était à la croix, il a méprisé la honte. Vous savez, Jésus était accroché. J'ai l'habitude de dire que si on te donne des coups, tu peux en rendre. Tu n'es pas vraiment humilié. Tu rends les coups et puis bon, on vous sépare. Mais quand tu es lié, on te tient la main, on te tient, on te bloque les bras. Maintenant, là, cette fois-ci, on te frappe pas avec des bâtons, mais on vient te gifler juste. C'est honteux, c'est humiliant. Et Jésus a été accroché à demi-nu. Demi-nu, hein, sur la croix. Et les ennemis de Jésus, les opposants, ils passaient là, ils le regardaient comme un objet à la vitrine en disant, mais sauve-toi toi-même. Tu as beaucoup parlé, regarde là où tu te retrouves. Et tu es accroché à demi-nu. Tu regardes ces gens-là dire tout ce qu'ils disent. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Alors, bien-aimé, quelle honte, toi, tu vas avoir pour le servir. Que les gens parlent. Les gens vont dire, mais il est devenu bête. Moi, quand je me suis converti, mes amis se sont dit, mais il est devenu poltron. Parce que moi, j'étais problématique dans les choses. J'allais toujours, je cherchais quelque part la bagarre jusqu'au bout. Maintenant, là, quand il commençait à avoir des débats, je disais, bon, écoutez, si vous n'avez pas compris, c'est bon, là. En 15 minutes, je capitulais. En 10 minutes, je capitulais. Ils ont dit, ah, ben là, il y a quelque chose qui a sauté dans sa tête. Ça n'a pas sauté, rien n'a sauté. C'est l'imitation de Christ. Et on ne doit pas avoir honte de tout cela. On n'a pas à dire, dernier conformisme avec le monde. Que je m'habille comme dans le monde. Voilà, encore 6 mois, après, on ira à fond. Non. Au moment où Dieu dit, c'est bon, tu entres. Tu ne regardes pas en arrière. Pas conformisme scientifique par rapport au monde. Tu as honte de dire que Dieu a fait la création en 7 jours. Pourquoi? Parce que tu es un docteur en physique. Les autres collègues docteurs vont se moquer de toi quand même. Ils vont dire quand même, Jean-Claude, sois sérieux. Regarde 7 jours, nous on a fait des tests de carbone 14, comme on dit. Les éléments scientifiques sont là. Et toi, coincé entre ton honneur de docteur et la parole de Dieu, tu dis, là je ne veux pas trop parler parce que je n'ai pas d'argument scientifique. Bien aimé, on n'a pas besoin d'argument scientifique pour défendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de la personne qui était là au moment où les faits se passaient. Dieu était là. S'il dit en 7 jours, lui-même était là. Les gens qui analysent aujourd'hui au carbone 14 n'étaient pas là. C'est leurs analyses. Et je peux, bien aimé, même scientifiquement, expliquer que c'est possible en 7 jours. Puisque c'est une question de vitesse. Aujourd'hui, avec Einstein, on a compris qu'à grande vitesse, les choses peuvent se faire courtement qu'à petite vitesse. Le temps est élastique. Le temps n'est pas tel qu'on comprenait les choses avant. Mais ce ne doit pas être de cette manière-là qu'on doit prendre les choses. on doit dire, le Seigneur a dit, c'est le Seigneur qui a raison. C'est ça le vrai disciple. Le Seigneur a raison. Plus tard, ça sera démontré, mais aujourd'hui, moi, je proclame qu'il a raison. Combien de choses qui sont dans la Bible ont été refusées il y a 2 siècles? Mais elles sont acceptées aujourd'hui avec les découvertes scientifiques. Donc, plus c'est les découvertes scientifiques, plus les gens disent, mais donc la Bible est vraie, tout ce qu'on est en train de... Il y en a même, il découvre la chose, hein, lui-même, hein, il est athée, il ne croit pas en Dieu, il découvre, il dit, ah, mais ce que j'ai découvert va donner la force aux gens qui croient en la Bible. Ah, oui, mais c'est ça la réalité. Mais alors, nous n'allons pas attendre que les gens découvrent pour croire en Dieu. Nous, on croit maintenant en Dieu. Et ça peut faire honte. Et des gens qui vont être là, chrétiens, mais froids, parce qu'il a du mal à accepter toutes les vérités bibliques. Il fait partie de ces gens-là qui disent à Jésus, « Laisse-moi aller dire au revoir à ma science. Le temps que je règle ce problème-là. » Moi, j'avais un problème, j'avais du mal à comprendre, à accepter que dans l'arche de Noé, il y avait tous les animaux. Et un jour, j'ai dit au Seigneur, « Mais je sens que je n'ai pas une foi véritable. Quoi. Je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. » Dans ma foi. On m'a dit, mais si tu ne crois pas à l'histoire de l'arche de Noé, c'est normal que ta foi ne soit pas bien. Quand j'ai lâché prise, ça ne veut pas dire comprendre. Lâcher prise, c'est dire, Dieu a raison, même si mon intelligence est dépassée. Quand j'ai lâché prise, quelques temps après, j'ai lu des documents de savants américains qui démontraient physiquement que oui, l'arche pouvait porter tous les animaux. Mais, je n'ai pas eu besoin de ça, pourquoi? J'ai lâché prise, c'est tout. Je dis, ben, au moment où Dieu me dit que c'est vrai, je dois considérer que c'est vrai. Je ne dois pas aller d'abord dire au revoir à la science, être d'accord avec la science, être d'accord avec mes parents, être d'accord avec ceci, d'accord avec... Non, c'est ce que ça veut dire au revoir, là. C'est être d'accord avec les parents. Ah non, être d'accord avec les enfants. Non, 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 non. Quand Dieu dit, va, tu vas. C'est ça, bien-aimé. Aujourd'hui, nous avons encore des téléphones. Vous savez, à l'époque des années 1950, 1930, 1900, les missionnaires, parfois, ils allaient en mission. Et quand ils revenaient, les parents étaient morts. Parce que dans les années 1800, 1900, on voyageait en bateau. Et le voyage pouvait durer 2 mois. Et la mission, ce n'était pas un truc de comme nous, on fait 12 jours en Guyane. Non. Aller en mission, ça voulait dire faire 5 ans. Et le temps de chercher le chemin du retour, tu arrives, un frère est mort, une sœur est morte. Une bombe est tombée, c'était la Deuxième Guerre mondiale, la bombe est tombée sur votre maison. Voilà ce qu'était l'état de la mission à l'époque. Mais les gens y allaient parce qu'ils estimaient que la vie d'une âme a beaucoup plus de prix que tout le reste. C'est pourquoi Jésus prépare ses disciples en leur faisant ce texte-là de Luc 9, 57 à 62. Voilà la préparation. Et quand il a préparé ainsi, l'Esprit peut agir. Actes des Apôtres, chapitre 2, on clôture avec ça. Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Alors, bien-aimés, les gens étaient venus ce jour-là pour une fête juive à Jérusalem. Mais il faut savoir, comme les Juifs étaient partis dans toutes les nations, le jour de la fête, ils revenaient de ces nations-là. C'était des Juifs, mais ils parlaient plutôt, beaucoup plus, les langues de ces nations d'où ils venaient. Et c'était les nations du monde entier. Ils arrivent là, ils entendent le bruit, ils voient le feu descendre sur les apôtres et les apôtres commencent à parler leur langue à eux. C'est comme si les apôtres commencent à parler le chinois alors qu'ils n'avaient jamais appris le chinois. Ils commencent à parler la langue égyptienne, la langue éthiopienne, l'arabe, la langue des Grecs. Ils sont dépassés d'entendre ces louanges-là qui précèdent l'annonce de l'Évangile. Ils entendent les louanges à Dieu dans toutes les langues qui préparent l'annonce de la rédemption. Là, ils n'ont pas encore annoncé l'Évangile, mais les langues de feu, quand elles viennent, elles font parler à ces apôtres de la gloire de Dieu, des remerciements à Dieu. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour le don de ton fils. Et ils commencent à louer Dieu. Dans toutes les langues, ça nous montre que Dieu veut sauver toutes les nations. Le Saint-Esprit est venu clôturer la révélation en montrant ce jour-là de la Pentecôte que Dieu, dès le départ, a voulu sauver toutes les nations. Ce n'était pas que le peuple hébreu. Parce que ces gens-là, qui étaient hébreux, qui étaient juifs, quand ils parlaient, ça sortait d'autres langues. Peut-être qu'eux, ils pensaient parler en hébreu, mais quand ça sortait en espagnol, ça sortait en français, ça sortait dans une autre langue. C'est ainsi que le Saint-Esprit clôture la révélation du départ concernant le salut de toutes les nations par Abraham et clôture ça par des langues de toutes les nations. Et ce jour-là, Pierre prend la parole, il prêche. Il explique aux gens qu'ils ne sont pas ivres, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui est répandue pour que les gens se repentent. Comme il va leur dire au verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. Donc avant ce message-là, vous voyez, on a dit ça hier et aujourd'hui, le message c'est repentez-vous. Et là, Pierre, quand il y a cette manifestation de puissance, il prêche, il dit aux gens, repentez-vous. Quittez le monde du péché et recevez Jésus-Christ. Vous allez être baptisés et vous allez devenir des enfants de Dieu. C'est ça la prédication que les disciples apportent. Mais c'est bien que ce soit des disciples, parce que si ce n'est pas des disciples, ça finit toujours mal. C'est pourquoi on a parlé de disciples. Le Saint-Esprit vient toucher le monde entier maintenant, en utilisant les disciples de Jésus. La boucle est bouclée. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Au nom de Jésus, Dieu nous appelle à devenir de vrais disciples, à nous laisser remplir du Saint-Esprit par la prière pour aller faire de toutes les nations des disciples. Nous ne sommes pas les premiers. Il y a eu des gens avant nous. Et Dieu nous parle à nous aujourd'hui et nous demande de suivre le chemin qu'a emprunté son fils Jésus pour être un missionnaire. Les apôtres, les gens qui nous ont précédés, comme le Hudson Taylor, emprunter le chemin des gens qui nous ont précédés, comme les Pavel, les Johann Schelter. Voilà, le chemin est là, balisé par les héros de la foi. Nous avons des exemples. Dieu nous appelle à suivre ces exemples-là. Nous sommes ici sur terre pour annoncer l'évangile. Nous ne sommes pas ici sur terre pour faire des châteaux ici, pour rester ici. C'est pour annoncer l'évangile. C'est ça l'enjeu missionnaire. La rédemption et l'annonce de la rédemption. Voilà ce que Dieu nous demande pour ce temps de la fin. Levons-nous et confions nos vies entre les mains du Seigneur. Il nous transformera et il nous utilisera. Nous allons prier ensemble. Je vais dire les phrases. Ceux qui seront d'accord avec ça vont répéter la même chose avec moi. Seigneur Jésus, j'ai compris l'enjeu missionnaire. J'ai compris l'importance du salut. Le salut d'une âme. Je veux désormais vivre pour annoncer la rédemption, annoncer le salut en Jésus-Christ à tous les humains. Libère-moi de la peur, libère-moi de l'égoïsme, libère-moi de l'attachement à la terre et remplis-moi de ton esprit. Voilà ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.